Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre magazine Ma France par ici les économies. Notre objectif, hein, vous le connaissez maintenant, chaque semaine vous redonner du pouvoir d'achat. Vous utilisez votre voiture tous les jours et elle représente un sacré budget. On est nombreux dans cette situation entre le carburant, l'entretien régulier, les imprévus, la panne du dimanche soir, ça revient très cher. On parle quand même d'un budget de 4 000 euros par an. Largement assez pour qu'on se mobilise et pour qu'on voit comment maîtriser ce budget au mieux avec l'aide de notre expert du jour pour nous aider. Bonjour Julien Azoura.
Bonjour Valère.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Automoto, c'est un magazine mensuel, c'est aussi un site internet. On Absolument. A une première question très concrète pour vous, c'est Guillaume qui vit à Champigny-sur-Marne qui vous la pose.
Ma question aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on peut toucher ou ne pas toucher dans un véhicule pour le réparer et pour ne pas être en porte-à-faux vis-à-vis d'une assurance s'il y a le moindre problème. Bonne journée à tous, au revoir.
Julien Azoura, moi aussi on me l'a déjà dit, hein, dans un petit garage, oulala, votre voiture elle est bourrée d'électronique, moi j'y touche pas, vous allez avoir des ennuis. Si même les pros le disent, alors en tant que particulier on peut hésiter, vous répondez quoi Guillaume ?
Alors bonjour Guillaume, je pense qu'il fait référence aux réparations qu'on peut faire soi-même sur sa voiture. J'aimerais qu'on distingue les réparations. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'entretien régulier. Je pense qu'on est tous passés par là, c'est l'huile, les filtres, les freins, les pneus. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même sans avoir de problème avec son assurance ou avec la garantie constructeur pour les véhicules plus récents.
Okay.
Ensuite il y a, on va dire, les pièces mineures. Bon, c'est pareil, on peut le faire soi-même. Toutefois, attention pour les pièces qui peuvent avoir une incidence sur, par exemple, la tenue de route ou la sécurité du véhicule. Je m'explique. Ce qui peut se passer si on a un problème avec le véhicule, par exemple un accident, et qu'une réparation a été mal faite, l'assurance pourrait vouloir éviter d'avoir à rembourser et donc se pencher sur la réparation. Et si c'est vous qui avez fait la réparation et qu'elle a été mal faite, vous risqueriez de ne pas être remboursé en cas de problème. Ce qui peut être embêtant, je prends un exemple très rapide, mais le système de freinage, vous pensez que vous avez bien mis votre plaquette de frein, c'est pas le cas. Le freinage n'a pas bien fonctionné, vous avez eu un accident, l'assurance pourrait se retourner contre vous. Donc on peut faire pas mal de choses. Pour ce qui concerne la sécurité, je préférais aller dans un garage.
Bon, ça au moins c'est clair. On va commencer par les affaires courantes. D'ailleurs, le mieux, quoi qu'il en soit, c'est d'entretenir régulièrement notre voiture, notamment la révision, ça c'est le minimum ?
Oui, c'est obligatoire. Et puis encore une fois, pour les véhicules les plus récents, ça fait partie des conditions sine qua non pour avoir la garantie du constructeur. Il y a pas mal de choses à respecter. On en parlera peut-être un petit peu plus tard si vous voulez. Mais oui, effectivement, l'entretien, c'est la base. Et puis ça permet aussi de ne pas tomber en panne au bord de la route. C'est quand même pas marrant. Je pense que
on est bien d'accord. sur la révision et les pépins en général, il y a une question qu'on se pose souvent. Aller chez le concessionnaire d'où vient la voiture, hein, qui a construit la voiture, ou aller dans un réseau indépendant, avec parfois des prix qui vont du simple au triple, hein. Qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Oui Valère, en fait on se pose souvent la question parce que parfois les constructeurs eux-mêmes mettent un peu le doute. Il y a bien sûr la fameuse garantie constructeur, donc on va vous dire oui mais c'est quand même mieux pour votre voiture de faire l'entretien dans le réseau. Sauf que c'est pas obligatoire. Après il faut faire attention quand vous achetez votre véhicule, si vous prenez par exemple une extension de garantie, de toute façon il faut toujours lire les petites lignes de ces garanties. Mais en toute logique, légalement, vous avez le droit de faire l'entretien en dehors du réseau. Et d'ailleurs, ça coûte souvent beaucoup moins cher.
Beaucoup moins cher, ça peut être vraiment
Exactement.
Très différent.
Ouais. Après, ça dépend de l'usage. Par exemple, je m'explique rapidement, si vous avez un véhicule, véhicule de sport, par exemple, ou un véhicule ancien, peut-être que vous avez envie d'aller dans le réseau pour avoir une certaine expertise, avoir des gens qui vont bien connaître cette mécanique en particulier, quand c'est des moteurs un peu spéciaux. Bon, ça concerne quand même pas grand monde. Pour les autres, on peut effectivement se dire qu'aller dans n'importe quelle enseigne généraliste, ça fait le boulot. Il y a un dernier point que je voudrais quand même évoquer, c'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle du véhicule. C'est la valeur qu'aura votre voiture une fois que vous voudrez la revendre. Si vous pouvez justifier d'un entretien dans le réseau, souvent, l'annonce, on mentionne entretien réseau, c'est un petit peu plus vendeur et ça permet de pouvoir la vendre sans doute un petit peu plus cher.
Ok, mais pas forcément beaucoup plus cher non plus. Et encore une fois, c'est parfois du simple au triple. Donc on retient qu'on peut aller en dehors du concessionnaire et faire réviser sa
absolument.
Voiture tout à fait tranquillement. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour éviter une perte de garantie ? Vous en parliez à l'instant. Les véhicules récents, il peut y avoir une perte de garantie si on fait mal les choix, si on intervient mal.
Absolument. Tout d'abord, vous l'avez dit, l'entretien du véhicule, il faut bien respecter ce qu'on appelle la périodicité de l'entretien. C'est-à-dire si la révision c'est au bout d'un an, bon, faut la faire au bout d'un an.
Mais comment on le sait ça ?
Alors, quand vous achetez un véhicule, le constructeur vous le dit.
Ouais. Ça peut s'afficher aussi.
Voilà, c'est ça. Sur les véhicules, même les véhicules anciens, généralement, quand l'entretien est dépassé, vous avez un petit voyant qui va s'allumer. Ça veut dire qu'il est, temps d'y aller. Logiquement, quand vous sortez du garage, le voyant, il s'est éteint. Ça veut dire que le garagiste a remis à jour avec sa valise. Donc ça, c'est très important. Il faut aussi utiliser des pièces recommandées par le constructeur. Je pense à l'huile, aux suspensions, s'il y a besoin de les changer. Ça, c'est important. Si vous restez pas dans le réseau, bon ben c'est pas très grave, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous ne perdrez pas la garantie constructeur. Par contre, il faut des factures. Il faut pouvoir prouver que vous avez fait l'entretien à la bonne date chez un professionnel qui va vous faire une facture. La facture, elle fait foi. Il ne faut pas modifier son véhicule. Alors, je parle pas des tapis de sol ou du petit sapin qui pendouille hein, au rétroviseur. Okay. Ça, vous pouvez le faire valer, il n'y a pas de problème. Non, je pense plutôt au boîtier électronique, reprogrammer son véhicule pour avoir un peu plus de puissance ou même mettre une ligne d'échappement qui fait plus de bruit, mettre des boucliers qui claquent.
Voilà, là, ça, on peut perdre la garantie.
Voilà, le constructeur peut dire, bah non, vous avez modifié le véhicule, moi je me désengage, je vous rembourse pas. Donc ça, c'est important de le savoir. Il faut avoir aussi un usage qu'on appelle normal du véhicule. C'est-à-dire, Valère, les week-ends, faut pas faire de rallye avec votre voiture.
Non, ça, j'en sais pas.
Donc, si vous le faites, le constructeur vous dira, désolé, mais là.
Ouais, ok, je comprends.
Ça, ça fonctionne pas. Et, dernier point, il ne faut pas laisser traîner une panne. Ça veut dire, si vous avez une panne sur votre véhicule, vous dites, bon, bah, c'est pas grave, j'irai le mois prochain, et puis encore le mois d'après, ça peut créer une surpanne. Et là, le constructeur peut dire, bah, attendez, vous rigolez, vous n'avez pas traité le premier problème qui était sous garantie. Là, la voiture, elle ne marche plus du tout. Bah, non, désolé, fallait venir à temps.
J'ai une petite question sur les logiciels. Vous savez, donc, vous le disiez, vous avez parlé de valise. C'est-à-dire, chez un garagiste indépendant, par exemple, vous faites votre révision et pour enlever la petite molette qui s'affiche, ou en tout cas le signalement comme quoi il fallait faire une révision, il va faire une mise à jour du logiciel. Mais dans certains cas, moi, ça m'est arrivé, ça ne marche pas. Et vous dites, bah, non, il faut aller chez le concessionnaire parce que nous, il nous bloque. Qu'est-ce qu'on fait ?
Oui, ça arrive sur les véhicules qui sont très récents ou les véhicules qui sont très anciens ou des véhicules qui ont été achetés par l'intermédiaire de mandataires à l'étranger. Ça peut arriver que le logiciel soit pas compatible. Bon, bah, malheureusement, dans ce cas-là, si le garagiste il vous dit qu'il peut pas le faire, bon, bah, c'est qu'il peut pas le faire. Il faut aller dans un autre garagiste. Après, il va peut-être vous dire d'aller chez votre constructeur. Sans doute que lui, il aura le bon logiciel, mais ça veut pas dire que le garagiste indépendant d'à côté, lui, il aura pas la bonne version. Parce que quand même, aujourd'hui, avec Internet, on met à jour les outils assez facilement.
Ouais, à la fin, c'est nous qui sommes un peu quand même, on peut le dire, hein, pris en otage. Alors, quand on est sur cette réparation, on le disait tout à l'heure, on fait soi-même. Ça, je l'ai bien compris. Pas toucher à la sécurité, hein, d'accord? Par contre, il faut faire attention aussi sur le sujet de l'entretien, Julien Azoura. Si on bricole trop à la fin, on peut aussi perdre plus que ce qu'on a économisé. Notamment, vous parliez de valeur résiduelle. Oui. C'est-à-dire que parfois, on le fait un peu à l'arrache, mais le véhicule, il en pâtit dans sa valeur.
Je vais souvent répondre, ça dépend de l'usage. Okay. C'est vrai que pour un véhicule ancien, qui n'a plus une grande valeur et qu'on a envie de faire durer un petit peu, bon bah là, il n'y a pas de limite, allez-y. Effectivement, peut-être la sécurité, ça reste des choses qu'il ne faut pas toucher, ça je suis d'accord. Mais il n'y aura pas de problème particulier. Pour revenir sur la valeur résiduelle, pour comprendre hein, ce que c'est exactement, on va calculer combien vous a coûté votre voiture en comptant le prix d'achat, en comptant tout ce que vous avez payé comme réparation, et en déduisant la valeur de revente. Ça veut dire que ce qui va vous rester à la fin, c'est ce que vous aurez dépensé. Si votre voiture elle a une grosse décote, bon bah forcément, le coût final, pour vous, il va être plus élevé. Donc, c'est intéressant d'essayer de maintenir une bonne valeur résiduelle de sa voiture. Et pour ça, il faut pouvoir justifier d'un entretien qui soit rigoureux.
Oui, on y revient.
Après, évidemment, un entretien rigoureux, vous pouvez avoir peut-être valeur des très bonnes connaissances en mécanique, avoir un pont élévateur chez vous et tout faire parfaitement. C'est vrai que moi, je ne vous connais pas et peut-être que je préférais, j'ai plus de confiance d'avoir une voiture, si je dis par exemple une BMW qui va être une voiture qui va me coûter un petit peu cher, si je vois qu'elle a été toujours entretenue chez BMW, bon, bah, au fond, moi, je vais me dire, peut-être qu'elle est un petit peu mieux.
C'est rassurant.
Pas forcément le cas.
Mais c'est rassurant.
Mais voilà. Donc, on aura une meilleure valeur.
Et j'ai une autre question sur les véhicules électriques. Est-ce que c'est vrai qu'une voiture électrique, c'est moins cher à entretenir?
C'est vrai et c'est pas vrai. Alors, non, parce que c'est attention, parce que le thème de la voiture électrique, c'est assez polarisant. C'est vrai dans le sens où une voiture électrique a moins de pièces mécaniques. C'est évident, il n'y a pas de moteur à combustion, donc il n'y a pas de pot d'échappement.
C'est plus simple,
C'est plus simple, voilà. Il y a moins de pièces. Il y a moins de pièces, donc moins de pièces égale moins de risque de panne. Et puis des pièces qui, en plus, coûtent cher, par exemple, voilà, une ligne d'échappement, des injecteurs, tout ça, il n'y en a pas. Après, il y a une pièce qui coûte très cher et qui parfois pose problème, c'est la batterie. C'est pour ça que quand on achète une voiture électrique neuve, il n'y a pas de souci. Mais si on achète d'occasion, même une occasion récente, il faut toujours faire contrôler l'état de sa voiture. Ça s'appelle le SOH. Alors, c'est un acronyme anglais, mais en gros, ça veut dire l'état de santé de la voiture.
D'accord.
Et là, on va mesurer, en gros, la capacité restante de votre batterie. Et ce n'est pas très cher. Hein. Ça coûte une cinquantaine d'euros pour faire chez un professionnel. Et moi, vraiment, je...
Donc ça, on le demande. Si on veut acheter une voiture d'occasion, une voiture électrique, on demande ce SOH au vendeur.
Obligatoire, okay. Obligatoire. Même si c'est un particulier, c'est pas grave. Vous allez ensemble dans un garage, vous faites le SOH. C'est très important parce que si votre batterie, par exemple, elle est en dessous de 70-75% de SOH, on considère que la batterie est à changer et c'est une pièce qui coûte très cher.
70-75%. Non, mais on retient ça. Je voudrais qu'on accueille une auditrice maintenant. Bonjour Marine.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes du côté de Pau et vous avez une question pour Julien Azoura à propos de l'entretien de votre voiture.
Oui, en effet. Moi, j'ai une voiture qui est assez âgée. J'y connais pas grand-chose, mais forcément, il y a toujours des petites réparations à faire dessus. Et en général, j'hésite pas mal entre acheter des pièces d'occasion, parce que sur le coup, ça me coûte moins cher et on pense quand même au budget, ou prendre plutôt du neuf dans l'espoir que ça me tienne plus longtemps et que je n'ai pas à rechanger la pièce dans le futur.
Ça, c'est une super question. Ouais, ouais. Occasion ou neuf pour les pièces alors de rechange, Julien ?
Moi, je dirais les deux. J'ai rien contre les pièces d'occasion ou reconditionnées, puisque c'est souvent ce qu'on vous propose dans les garages. Il y a une filière aujourd'hui qui permet de reconditionner les pièces. Depuis la loi de transition énergétique en 2017, le garagiste est obligé de vous proposer des pièces d'occasion quand il en a. Personnellement, ça me fait pas vraiment peur. On peut acheter une pièce neuve qui va casser assez rapidement. On peut acheter une pièce d'occasion qui va durer hyper longtemps. Encore une fois, ça dépend de la pièce.
On la trouve où cette pièce ? On va à la casse. Moi, j'allais à la casse avec mon père quand j'étais petit. Lui, il connaissait la mécanique. Moi, j'y connais rien. Donc, je suis pas sûr que je m'y retrouverai. Ou alors, on passe par une filière sur Internet, par exemple, des professionnels du reconditionné.
En fait, le garagiste, ça dépend si vous le faites chez vous ou si vous le faites chez un garagiste. Le garagiste, il est obligé de vous proposer s'il en a. Après, il le fera pas forcément parce que forcément, il va gagner un petit peu moins d'argent parce que la pièce va coûter moins cher. Et puis, j'ai appelé quelques garagistes justement sur ce sujet. Et le problème qu'il peut y avoir, c'est le problème des références. Par exemple, si vous roulez dans une Renault Clio et que vous avez besoin de changer le combiné d'instrumentation derrière le volant, il y en a plein en fait. Il y a tout un tas de références. Et donc, d'occasion, c'est pas forcément aussi bien référencé que sur le neuf. Et donc, le garagiste va commencer la pièce. Il va commander la pièce, et quand il va la recevoir, elle ne sera pas bonne. Donc il va devoir la renvoyer, la recommander. Il va perdre du temps. Donc souvent, le garagiste, il n'est pas forcément très chaud pour mettre des pièces d'occasion. Mais en tout cas, légalement, il est censé en proposer. Après, si vous voulez l'acheter vous-même, la pièce, alors déjà, si vous arrivez avec votre pièce d'occasion chez le garagiste, à moins que ce soit un très bon ami à vous, il y a quand même très peu de chances qu'il accepte de vous la monter. Ça, il faut le savoir, parce qu'il n'aura pas gagné d'argent avec. Et puis surtout, il dira que... Et d'un point de vue sécurité, il n'a pas envie de prendre une pièce dont il ne connaît pas l'origine.
Okay.
Ça, je le comprends. Mais vous pouvez aller dans les casses, ça existe toujours, Valère. D'ailleurs, on fait des bonnes affaires.
Mais il faut s'y connaître, hein ? Bah, un peu, quoi.
Il faut être sûr d'avoir la bonne référence. Et l'avantage d'une casse par rapport à un achat en ligne, c'est que la pièce, vous pouvez l'avoir tout de suite et vous pouvez voir si elle correspond avec votre ancienne pièce. Et je termine rapidement sur l'achat sur Internet, parce que, attention, on peut effectivement acheter des pièces d'occasion sur Internet, ou même des pièces neuves, soit même sur Internet, ce que moi, je fais personnellement. Après, attention, c'est comme pour les vêtements, il y a de la contrefaçon. Donc attention, de là où vous achetez...
Mieux prendre des gros opérateurs pour être plus tranquille,
oui,
peut-être.
Oui, en plus, sur Internet, aujourd'hui, il y a tout, et ceux qui ont pignon sur rue, on les connaît.
Merci Marine, j'espère qu'on a répondu à votre question.
Oui, c'était parfait, merci beaucoup.
Et j'en profite pour vous rappeler, chers auditeurs d'ici, que nous sommes là pour vous aider avec ce mail pour nous écrire. On attend vos questions, vous pouvez participer aussi à l'émission en m'écrivant parisilleséconomies@radiofrance.com. La semaine prochaine, on va prendre le train ensemble et essayer d'y voir clair dans le brouillard des tarifs de la SNCF qui va bientôt mettre en ligne les billets pour les fêtes de fin d'année. Julien Azoura, rédacteur en chef pour le magazine Automoto. Très rapidement, un mot sur les pneus. Quand on habite en montagne, il va falloir les changer, là, les règles, elles bouge.
Absolument. Enfin, la loi montagne est passée il y a déjà un petit moment. Elle va rentrer en application là. Donc pour les habitants de ces départements concernés, il va falloir chausser des pneus hiver à partir du mois de novembre. C'est obligatoire. Et c'est aussi vrai pour les gens en transit, en fait. Hein. Il va falloir aussi avoir soit des pneus hiver, soit des pneus 4 saisons qui ont la petite montagne avec les trois flocons, ça c'est important. Ou alors des équipements comme des chaussettes à neige ou des chaînes pour au moins 2 roues motrices.
On va parler des garages aussi. Hein. Il y en aurait environ 100 000 en France. Donc on a le choix, mais tous ne se valent pas sur le rapport qualité-prix. Et on va recevoir dans un instant Fabien Borsa. Il est le directeur de idgarage.com. C'est un comparateur de garages.
Ici,
avec Valère Coréard,
par ici les économies.
On a un objectif dans cette émission, vous redonner du pouvoir d'achat. Le thème aujourd'hui, comment entretenir sa voiture sans se ruiner. Julien Azoura est rédacteur en chef du magazine Automoto. Il est avec nous et Fabien Borsa nous a rejoint. Bonjour Fabien.
Oui, bonjour.
Vous êtes le directeur de idgarage.com. C'est un comparateur de garages, donc vous comparez les garages.
Exactement. Alors, on fait un petit peu plus que ça. En fait, notre mission, c'est de rendre l'entretien automobile vraiment très transparent et très accessible pour l'automobiliste.
Et qu'est-ce qu'on retrouve comme critère de comparaison entre les différents garagistes ?
Aujourd'hui, vous allez bien sûr avoir le prix. C'est le thème de votre émission et c'est le plus important pour les consommateurs à l'heure actuelle. Vous avez l'ensemble du devis qui est détaillé et transparent pour l'utilisateur. Ensuite, vous avez la disponibilité réelle des rendez-vous et des plannings des garages sur la plateforme. Les avis clients qui sont certifiés. On ne peut publier un avis dans un garage qu'après y être effectivement passé par l'intermédiaire de notre plateforme. Et puis le dernier, bien sûr, la proximité géographique. On peut rechercher un garage à proximité de chez soi, à proximité de travail, à proximité de son lieu de vacances.
Julien, j'ai vu que vous étiez en train de faire, vous étiez par l'affirmative avec dans votre gestuelle, vous opiniez du chef, comme on dit. C'est important les avis certifiés. Hein.
Oui, et puis je réagissais aussi au devis détaillé. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin tout le monde, je pense vous aussi, Valère, vous voulez savoir combien vous allez payer avant. Et ça arrive encore malheureusement trop souvent d'aller chez le garage et d'avoir la mauvaise surprise après. Donc c'est vrai que c'est pas mal, le devis détaillé avant, c'est quand même positif.
Fabien Borsa pour idgarage.com. Il y a eu des affaires de conflits d'intérêts chez des comparateurs. Comment vous garantissez-vous votre indépendance ?
Ah, c'est un point crucial parce qu'effectivement, on peut pas dire qu'on veut amener de la transparence et de la confiance si on respecte pas certaines règles. Donc chez nous, ce sont les garages qui fixent leurs tarifs. Ils pilotent bien sûr leur agenda en ligne. Donc nous, on les conseille au moment où ils souhaitent intégrer notre plateforme. On va leur donner une visibilité sur les prix qui sont pratiqués dans leur zone. Et eux, en fonction de leur objectif, ils définissent leur politique tarifaire. Mais notre rémunération et des garages n'est pas basée sur ces éléments-là. Donc on va jamais privilégier un garage par rapport à un autre. Pour nous, l'objectif, c'est que l'automobiliste choisisse en toute liberté sur la base de critères qui sont vraiment très objectifs.
Et on précise, donc, tous les garages ne sont pas encore, enfin, on vous le souhaite un jour, hein, si ça marche bien, mais ils ne sont pas encore chez idgarage. Donc, c'est un comparateur des garagistes qui ont accepté de rejoindre votre plateforme. C'est important de le préciser. Hein.
Effectivement. Alors, aujourd'hui, on a quand même déjà plusieurs milliers. On va approcher les 4500 garages répartis sur tout le territoire. Et on a surtout quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on a des indépendants qui bénéficient pas forcément de la visibilité que peuvent avoir des réseaux de centres auto, donc on en a aussi, et puis on a quelques concessions. En fait, quand un garage arrive sur la plateforme, il doit respecter une charte qualité et accepter la transparence. Et donc, il accepte d'afficher ses tarifs en amont, ses disponibilités, pour que les automobilistes puissent choisir ce qui est effectivement accepté par l'ensemble de la profession aujourd'hui.
Merci beaucoup Fabien Borsa, vous êtes le directeur donc de cette plateforme idgarage.com. Garage, c'est au pluriel, c'est donc un comparateur de garage. Merci d'être venu vous exprimer au micro d'ici.
Merci à vous.
On va poursuivre. Julien Azoura, vous êtes rédacteur en chef du média Automoto. Avant de nous quitter, vous allez vous prêter au jeu de notre quiz. Pour finir avec les idées claires, c'est important pour tout le monde de bien comprendre comment faire des économies sur l'entretien de la voiture sans faire de bêtises non plus. Alors, utiliser une pièce d'occasion, première question, pour réparer son véhicule va avoir un impact sur la sécurité, vrai ou faux ?
Vrai, si c'est une pièce de sécurité, sinon faux, allez-y, moi en tout cas, c'est ce que je fais.
Un véhicule électrique coûte moins cher à l'entretien ?
Vrai, globalement vrai, sauf s'il faut changer la batterie.
Et la batterie, on va le rappeler, pour savoir quel est son état, c'est un protocole qui s'appelle SOH et absolument. On doit le demander absolument au vendeur. Hein.
Absolument. Pour les voitures d'occasion, bien sûr, pour le neuf, ça n'a pas de sens.
Combien de pourcentage, la limite, pour dire elle est plus bonne ?
On la change à 70-75%.
Réparer soi-même, c'est bien, mais pas n'importe quoi, parce que ça peut avoir des conséquences sur la valeur finale de sa voiture, vrai ou faux ?
Vrai. Surtout si c'est mal fait, ça peut se voir. Et surtout si on ne peut pas justifier soi-même l'entretien, puisqu'on ne peut pas se faire de facture à soi-même. Pour la revente, on peut avoir du mal à justifier qu'on a fait les choses soi-même.
Alors, j'ai une question, on en parlait tout à l'heure, c'est la dernière du quiz. Je tombe en panne à 22h avec les enfants à l'arrière. Comme ça, on rajoute vraiment au film, c'est assez affreux. Si j'ai la chance de croiser une dépanneuse, tiens, sur la route, elle passe devant moi et je viens de tomber en panne, c'est ma bonne étoile, j'en profite ?
Non, c'est une très mauvaise idée. Il y a... une grosse arnaque en ce moment aux fausses dépanneuses. Enfin, ce sont des vraies dépanneuses, mais qui vont s'arrêter alors qu'on les a pas appelées, qui vont vous dire vous inquiétez pas, tout est pris en charge par l'assurance, un peu comme certains serruriers le soir et les week-ends. Et en fait, c'est une arnaque. Il va vous prendre énormément d'argent et peut-être que votre assurance aurait elle-même pris en charge le dépannage. Là, ça ne sera pas le cas.
Merci beaucoup, Julien Azoura, pour vos éclairages. J'espère
Merci,
que
Valère.
Vous y voyez plus clair, vous qui nous avez écoutés sur votre radio locale ici, pour écouter toute l'émission, la partager avec vos proches et les faire profiter de cette mine d'infos pratiques au service de notre pouvoir d'achat, c'est sur ici.fr. La semaine prochaine, on va s'intéresser aux tarifs de la SNCF. Comment s'y retrouver dans cette jungle? Vous voulez témoigner, participer? Par ici, leséconomies@radiofrance.com.